partir comme ça. Alors, la journée d'aujourd'hui va être consacrée essentiellement à tenter d'aborder d'une part le protocole OAI-PMH et d'autre part de voir comment fonctionnent des logiciels. Le problème, c'est que autant hier on a pu manipuler des choses parce qu'on est du côté de l'utilisateur ou du côté du spécialiste de l'indexation ou de la, du catalogage, autant quand on commence à toucher au monde de l'OAI-PMH, on rentre de l'autre côté du miroir, à l'intérieur des serveurs et à l'intérieur des protocoles de service. Donc c'est un petit peu plus difficile. Ce qui fait qu'on va essayer d'utiliser, au moins pour ce qui me concerne, une ressource sur un serveur qui n'est pas un serveur trop de production, donc on pourra les mettre les doigts dedans, mais il ne faut quand même pas tout casser. Autant pour cet après-midi, c'est sûr que ce qui concerne Ori touchera plus de la démonstration que de l'utilisation. Alors pour OAI-PMH, ce que je vais vous montrer ce matin, là aussi je suis très embêté parce qu'habituellement ce n'est pas moi qui fais cet exposé. C'était Pierre-Yves Duchemin de l'ENSIB qui faisait ça chaque fois en collaboration avec moi. Et donc il est disparu et j'ai récupéré un petit peu ce qu'il avait fait pour essayer de proposer quelque chose. Donc soyez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais cet exposé et donc je ne suis pas sûr d'être tout à fait dans le ton. Bien, alors OAI-PMH, c'est quoi ? Mais on va voir que c'est un problème qui concerne les archives ouvertes, donc je commencerai par dire quelques mots sur l'origine et ce que sont les archives ouvertes. C'est un problème qui concerne les métadonnées, donc on refera un petit tour un peu plus approfondi sur les métadonnées. Ensuite, j'aborderai l'historique de l'OAI-PMH qui a une certaine importance sur les développements actuels. Et enfin, on parlera de ce protocole. Et je pense que là, on sera plus dans une logique collaborative parce que c'est assez, je ne sais pas à quel niveau il faut traiter cette chose-là. Et bon, sur le fonctionnement, on ira faire ça dans la salle de travail à côté. Alors, les archives ouvertes. Les archives ouvertes, c'est une idée qui finalement est très jeune dans le monde du catalogage et de l'indexation. Cette idée se trouve quelque part dans le début des années 90 et elle ne vient pas du monde des bibliothèques et de la documentation, elle vient du monde de la recherche scientifique dans lequel des chercheurs se sont rendus compte qu'ils avaient la possibilité de déposer leurs ressources et de les rendre accessibles grâce au protocole HTTP. Et en fait, ce mouvement est né essentiellement au niveau de la physique et des mathématiques. Ce qui est assez logique parce que, comme vous le savez, le protocole HTTP et le web sont nés dans le monde de la physique. L'objectif, c'était très clairement un objectif de diffusion et la volonté de ces gens tout au début était simplement d'optimiser la circulation des connaissances. Et ce qui s'est passé à peu près en même temps, à la même époque, ce sont des modifications des relations qui existaient entre les éditeurs et les bibliothèques. Ce qui s'est passé, c'est que les éditeurs, par différentes stratégies, ont mis en place un rôle prépondérant et ils ont conquis ce rôle aux dépens des bibliothèques où ils ont réussi à enlever un petit peu de l'initiative et un petit peu du pouvoir qu'avaient les bibliothèques d'organiser, de constituer, de choisir des collections. Et immédiatement, il y a eu une réaction des bibliothèques qui ont lancé différentes initiatives. Alors celle que je cite est l'initiative SPARC, Scholarly Publishing and Academic Resource Coalition, dont je vous donne le site web. C'est un endroit sur lequel, effectivement, aujourd'hui encore, il y a une activité très forte avec des outils web modernes qui visent à conserver cette notion d'archives ouvertes, de diffusion et de libre accès à la connaissance. Pardon, je marche en marche arrière, c'est pas terrible. La deuxième grande famille de choses qui ont créé les archives ouvertes et qui ont permis leur développement, c'est ce qui s'est passé au niveau des évolutions des politiques scientifiques mondiales que l'on peut cristalliser un petit peu sur la déclaration de Berlin en 2003. La volonté des États et des politiques scientifiques des différents États a été d'imposer le libre accès aux résultats de la recherche. Et en souhaitant imposer ce libre accès, il y avait deux populations qui étaient visées. Bien sûr, la population des chercheurs et de l'autre côté, la population des citoyens. Et derrière cette dualité dans la cible qui était visée, il y avait la volonté de rendre possible le débat à propos de la recherche. Alors pour les chercheurs, on peut trouver étonnant de se dire qu'il fallait rendre accessibles les résultats de la recherche aux chercheurs. Mais en fait, la question qui était cachée derrière, c'était les coûts croissants des ressources en ligne ou des ressources de publication des résultats scientifiques. Et il fallait absolument que soit prise une décision, ou du moins la volonté que soit affichée, que l'accès aux résultats de la recherche ne devienne pas simplement quelque chose de purement financier. Et du côté des citoyens, le but était là aussi de faire qu'un citoyen puisse décider, voter, agir, créer des lobbies en fonction de connaissances qui soient de vraies connaissances scientifiques. Bien, après cette déclaration de Berlin en 2003, qui avait été signée pour la France par le CNRS, il y a eu une concrétisation effective au niveau de la politique par création d'archives ouvertes institutionnelles. Et ces archives ouvertes institutionnelles avaient pour vocation le dépôt de travaux directement par les chercheurs. On peut trouver tous les documents relatifs à ces aspects fondateurs des archives ouvertes sur le site de l'INIST, à l'adresse http://openaccess.inist.fr. Et celle que je vais préciser ici est la rubrique dans laquelle sont listés les documents eux-mêmes. Mais le site lui-même est bien fait et permet d'avoir une très bonne image de tout ce qu'il faut savoir sur ces aspects de début des archives ouvertes. Alors, qu'est-ce que une archive ouverte ? Je suis allé prendre la définition à l'INIST pour essayer d'avoir quelque chose le plus rigoureux possible. Et l'INIST nous dit « Le terme archive ouverte désigne un réservoir où sont déposées des données » issus de la recherche scientifique et de l'enseignement dont l'accès se veut ouvert, c'est-à-dire sans barrière. Cette ouverture est rendue possible par l'utilisation de protocoles communs qui facilitent l'accessibilité de contenus provenant de plusieurs entrepôts maintenus par différents fournisseurs de données. Alors dans cette définition, on voit tout de suite apparaître le sans barrière et on parle des données. On ne parle pas des métadonnées. Et ça vous ramène un petit peu à la discussion que nous avions eue hier sur le fait de faut-il indexer des données qui sont non pas protégées ou payantes, mais qui sont réservées à un accès authentifié. Alors, je pense que on pourra en discuter, c'est quelque chose qui est à jour du fait de l'évolution des protocoles d'identification sur le web. Donc, si on essaie de voir ce qu'on trouve dans cette définition, on trouve la notion de réservoir, on trouve la notion de réseau, forcément Internet pour nous en ce moment, la notion de protocole et la notion de standard. Donc, toutes ces notions constituent finalement ce que peut être une archive ouverte. Alors, lorsque l'on s'intéresse à l'évolution de ces archives ouvertes, ces dernières années, le web a évolué à une vitesse très très importante. La quantité de données disponibles a elle aussi évolué dans des proportions très importantes. Et finalement, on se rend compte que l'évolution des archives ouvertes, elle concerne bien sûr les bibliothèques. On est au cœur du métier des bibliothèques qui est de maintenir le libre accès à la connaissance. On se rend compte qu'il y a les mêmes objectifs entre ce que peuvent être les archives ouvertes et ce que peuvent être les bibliothèques. Et on se rend compte que les bibliothèques doivent être capables d'assumer une certaine forme d'auto-archivage par les chercheurs, dans la mesure où, dans la définition des archives ouvertes, on demande à ce que ce soit les auteurs qui déposent effectivement des ressources. Alors ça concerne aussi les TIC, bien sûr, parce qu'il est nécessaire, si on veut communiquer et échanger, d'avoir une infrastructure et des réseaux. Mais ce n'est pas seulement au niveau purement matériel, c'est aussi au niveau du logiciel, puisqu'il faut mettre en place des protocoles et des dispositifs qui permettent de réaliser ces archives ouvertes. Et c'est aussi au niveau des usages, où on doit mettre en place une certaine forme de culture numérique, dans laquelle tout individu concerné sait le rôle qu'il a à jouer dans le dispositif. Et si les deux premiers aspects sont assez faciles à faire, moyennant quelques discussions, le troisième, à titre personnel, je pense que nous sommes dans une catastrophe absolue. La troisième entité concernée, ce sont les institutions et les décideurs. Alors j'ai pris l'exemple de la France. En France, aujourd'hui, en 2008, il y a deux actions majeures qui concernent la mutualisation des dépôts. L'une est les universités numériques thématiques. Ce sont des regroupements d'universités physiques qui décident de mutualiser leurs ressources afin de les partager et de les mettre à la disposition de leurs étudiants. Les UNR sont les universités numériques en région, qui constituent des plateformes copilotées par l'État, la région et les établissements, sur lesquelles sont mises à disposition des services et bien sûr des ressources. Donc ça, ces choses-là, c'est pour l'enseignement supérieur. Pour l'enseignement secondaire, on a la prolifération actuelle des environnements numériques de travail. On a aussi des initiatives comme Performance. On a la refonte de ce qui se passe au niveau du CNDP en ce moment sur les archives du CNDP. Donc on a aussi pour le secondaire des mouvements très importants. Côté recherche pure, il y a bien sûr au CNRS HAL et tous les dérivés de HAL, puisque l'idée était que n'importe quelle entité dont la taille était suffisante pouvait créer un miroir HAL en quelque sorte, pour permettre à ces chercheurs de déposer ces ressources, ces résultats de recherche, afin d'avoir des sortes d'îlots thématiques. Alors il y a la Maison des sciences de l'homme qui a un HAL qui lui est propre, il y en a un autre pour l'INRIA, qui sont les deux que je connais un petit peu, qui sont de très gros dépôts HAL, puisque ce sont de très grosses maisons. Et le dernier acteur, c'est bien sûr l'auteur, puisqu'on a déjà dit qu'il entrait dans ses attributions une forme d'auto-archivage. Mais aussi, on va le voir un petit peu plus loin, on lui demande une contribution. Et il est absolument nécessaire que l'auteur évolue dans sa démarche d'archivage, dans sa démarche d'indexation, avec tous les autres partenaires, pour que des archives ouvertes puissent vivre. Alors, un petit point sur les métadonnées. Les archives ouvertes, on a vu que ces idées dataient des années 2000. En fait, les métadonnées, c'est quelque chose qui a émergé vers 1994. Ça a été inventé et formalisé au milieu des années 90, et en fait, à l'époque, c'était vraiment les prémices du web. Le web n'était pas quelque chose d'énorme, il y avait des ressources, mais bon, ça progressait gentiment, et la question qui s'était posée, c'était comment allons-nous cataloguer le web ? Et la réponse pour cataloguer le web avait été une réflexion sur les métadonnées et la mise en place de cette notion de métadonnées. Alors on peut se demander quelle était la différence et qu'est-ce qui justifiait de faire une différence avec le catalogage dans une bibliothèque. Eh bien, les différences étaient essentiellement dues au fait que le web est différent d'une bibliothèque ou d'un document papier ou d'un ensemble de documents papier. La première chose, c'est que le contexte doit être pris en compte. Une page web existe au sein d'un site web avec un objectif particulier dans un contexte particulier. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on rentre sur le web, le document numérique, une fois qu'il est déposé quelque part, il n'est pas forcément comme un bouquin qu'on a déposé dans une étagère. Il y a des risques sur la pérennité de ce document beaucoup plus importants qu'il peut y en avoir sur du document papier. Et donc, on a un problème immédiat de gestion et de conservation du document numérique totalement différent de ce que peut connaître une bibliothèque. Et le troisième point, c'est qu'en fait, on en a parlé un petit peu hier, c'est ce que disait le collègue à propos de l'usage et des effets de bord, c'est qu'en fait, les usages qui peuvent être faits des documents qui sont mis sur le web sont extrêmement larges et dévient souvent fondamentalement de la raison pour laquelle le document a pu être mis sur le web. Et il faut donc, quand on essaie de gérer, de cataloguer, de savoir ce qu'il y a sur le web, prendre en compte la possibilité de ces usages élargis. Donc là, ce sont les trois arguments, je dirais, les plus forts pour expliquer pourquoi il y a une différence avec la démarche habituelle des bibliothèques et ce qui a justifié le bouillonnement autour de ces métadonnées et de leur utilisation pour le web. Alors, un des concepts fondamentaux qui a émergé assez rapidement, c'est que l'auteur, qui est forcément un non-spécialiste du catalogage, doit fournir une description et une indexation minimale. Donc ça veut dire que, obligatoirement, quand on est dans cette logique de métadonnées, on a besoin d'une intervention de l'auteur pour que le système puisse vivre. Alors, quels sont les avantages que l'on peut trouver à cette démarche qui paraît quand même un petit peu coûteuse? Le premier avantage, mais on a vu hier que ça pouvait être aussi un inconvénient, c'est que ça peut permettre des requêtes beaucoup plus fines par les moteurs de recherche et éviter un certain bruit lorsqu'on s'adresse à des questions très pointues. Deuxième avantage, c'est que ça doit pouvoir améliorer l'indexation, améliorer la généralisation de l'usage des thésauries, ainsi que l'utilisation des ontologies. Alors là, je crois qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et le dernier avantage, c'est que ça doit permettre la gestion, l'archivage des documents électroniques. Ça, c'est une réalité qui, finalement, on est en train de s'imposer peut-être au premier chef, puisque beaucoup d'établissements, compte tenu de l'évolution de la loi sur les universités, s'interrogent sur ce que peut être leur patrimoine. Et dans ces interrogations sur le patrimoine, arrivent celles qui concernent le patrimoine numérique d'un établissement. Effectivement, la notion de métadonnées peut contribuer, là par un effet de bord, au développement d'archives ouvertes. Alors, quelle définition peut-on donner des métadonnées? La définition la plus simple, la plus basique et qui finalement doit fonctionner, c'est que ce sont des informations sur des données. On peut dire données sur les données, ça fait un petit mot joli, mais information sur les données doit suffire. Et ces informations sur les données sont organisées dans quel but? Elles sont là pour gérer les ressources bibliographiques ou d'informations. Elles sont là pour informer sur le contenu du document, pour faciliter sa recherche, sa localisation et son identification. Elles sont là aussi pour évaluer le contenu du document, permettre le suivi de son utilisation et le respect des droits d'utilisation, faciliter l'interopérabilité des données grâce à des standards et des normes, et aussi offrir simultanément les ressources et la description. Or là, ce dernier point est très intéressant, parce que tout à l'heure, on parlera des différents contributeurs à l'OAIPMH, et on différencie la ressource de sa description, alors qu'en réalité, dès l'abord, on se rend compte que les métadonnées vont de façon assez systématique suivre les données auxquelles elles sont associées. Et que le couple données-métadonnées est quelque chose qui est difficilement dissociable. On a discuté déjà hier de la relation qu'il peut y avoir entre données et métadonnées et les deux possibilités qui sont: je décide d'attacher de façon forte numériquement la métadonnée à sa donnée, où je dispose d'une base de métadonnées indépendante de la base de données. Quoi qu'il en soit, dans une logique d'archives ouvertes, il faut systématiquement avoir à l'esprit qu'on offrira aussi bien la donnée, l'accès à la donnée, que la métadonnée. Alors, quels sont les différents types de métadonnées que l'on peut essayer de catégoriser? Ces informations sur les données, elles peuvent servir simplement à décrire et indexer. Dans ce cas-là, on a de la métadonnée que l'on qualifiera de descriptive. Elles peuvent servir à identifier un objet. Là, on est beaucoup plus dans des fonctions, comment dire, de maintenance au niveau de la structure elle-même. Elles peuvent servir à préserver. En ce moment-là, on est dans des métadonnées de structure. Elles peuvent servir à administrer. C'est la partie gestion de ces métadonnées. L'objectif général est de partager. Ça, c'est une position philosophique, et aussi de diffuser. Et pour diffuser, ces métadonnées doivent être capables de circuler grâce à un protocole qu'on va voir plus tard, qui est le protocole OAIPMH. Alors justement, OAIPMH, Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Historique. On a vu que tout ce qui concernait les archives ouvertes était quelque chose d'un petit peu ancien. La notion de métadonnées est arrivée ensuite. Et celle de protocole d'échange est arrivée quelque part vers 1999 à l'occasion d'une conférence en octobre à Santa Fe sur le développement des systèmes de publication électronique dans le cadre du web. Et ce qui s'est dégagé de cette conférence, c'était que très clairement, il y avait un nouvel objectif qui était apparu, qui était celui de mettre en place un cadre général pour fédérer des contenus sur le web. À partir du moment où on avait cet objectif et ce cadre général que l'on souhaitait mettre en place, deux pistes sont apparues. La première était concernée le traitement de l'interrogation simultanée des bases hétérogènes. Et en fait, c'est quelque chose qui était dans le prolongement de l'ISO 239-50. Comment fait-on lorsqu'on est confronté à des bases qui sont forcément hétérogènes, qui sont forcément réparties sur la totalité de la planète, pour réussir à les interroger de façon cohérente? La deuxième piste apparue était le corollaire de la précédente, c'est-à-dire une fois que je sais interroger, il va falloir que je sache collecter. Et je suis confronté à un problème de masse. Comment puis-je collecter massivement les métadonnées? Et immédiatement est apparue la possibilité que l'on ne puisse pas le faire de façon unique. Et donc on s'est demandé tout de suite si on pouvait, comment faire pour collecter des métadonnées dans un ou plusieurs services centraux. Alors, en septembre 2000, au bout d'un an donc à peu près, grosso modo, l'OAE, qui était donc une initiative quasi spontanée, on va dire, cette initiative s'organise. Elle dispose maintenant d'un comité scientifique, elle dispose d'un comité technique, et elle définit une mission qu'elle affiche très officiellement. La mission de l'OAE est de faciliter les échanges, l'interopérabilité et l'extensibilité des archives contenant tout type de contenu numérique, en encourageant l'utilisation de standards pour le partage des métadonnées en vue de la diffusion et de la publication des données dans des archives ouvertes. Alors, dans cette mission est apparu le mot standard, qui est loin d'être anecdotique. Si vous connaissez un petit peu l'état de fonctionnement des États-Unis en termes de normes, vous voyez que derrière le mot standard se cachent forcément de vrais lobbies organisés qui sont arrivés là pour effectivement participer à cette grande initiative de partage de connaissances en étant certain de pouvoir avoir une part du gâteau, donc en obligeant la définition de standards. Donc cette rigueur au niveau des standards a vu sa concrétisation en 2001 par l'apparition de la première version de la norme OAI, et en 2002 est apparue la version 2. Et si vous souhaitez avoir des informations sur ces versions, le site est www.openarchive.org/OAI/openarchiveprotocole en un seul mot, .html. Si vous cherchez sur Google, méfiez-vous. Si vous tapez OAI seulement, vous n'allez pas forcément y arriver directement. Il faut bien taper OAI PMH. Et éventuellement OIPMH et Organization pour bien arriver sur le .org. Sinon, vous avez tout un tas de toute une nuée de sites plus ou moins correspondant à votre souci qui se sont mis en place. Alors, ce protocole OIPMH est le protocole qui a été immédiatement associé à l'initiative d'archives ouvertes. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'archives ouvertes, on ne peut pas dissocier tout ce qui concerne les idées autour de l'archive ouverte, des idées autour du protocole qui permet d'échanger les métadonnées. Et en fait, la version 2 dont je vous ai parlé et qui date donc du 14 juin 2002 est considérée comme étant une version dite définitive. En réalité, dans le monde de l'informatique, on appellera cette version stable. Et la seule chose qui évolue, c'est à côté de la version, il y a un document de commentaires. Et le document de commentaire, lui, évolue. Par contre, la version n'a pas changé depuis 2002. Ce qui est quand même, pour des outils informatiques, quelque chose qui a une extrême longévité. Alors, ce protocole, ce qui fait probablement sa force, c'est que lorsque vous regardez la définition du protocole, il s'appuie sur très peu d'éléments. Il s'appuie sur HTTP et il s'appuie sur XML. C'est tout. Et ce qui fait aussi sa robustesse, c'est qu'en fait, le nombre de fonctionnalités qui sont présentes est assez limité et parfaitement circonscrit. Il doit permettre de découvrir, présenter, analyser le contenu d'une archive par échange de données asynchrone. Le mot asynchrone est aussi très important parce que il faut voir que quand on est dans la logique de l'archive, on n'est pas du tout dans ce que l'on peut avoir avec la norme ISO 239-50. où je suis dans la situation où j'interroge des bibliothèques et je veux leur répondre maintenant. Je veux savoir ce qui se passe. Et donc, avec Z3950, j'interroge et j'obtiens immédiatement une réponse. Le bouquin est disponible ici, là, là-bas. J'ai plus qu'à prendre le métro, aller le chercher. Dans le cadre de l'OAIPMH, l'idée est différente. On est dans une logique asynchrone, c'est-à-dire que on considère que la plus-value est d'assembler des informations et que ces informations seront assemblées périodiquement, épisodiquement. Et la mise à jour se fait donc avec des intervalles de temps réguliers ou irréguliers. Mais ce qui est certain, c'est que je ne peux pas, au travers de l'OAIPMH, attendre une réponse qui a été mise en place la veille. Il va falloir attendre que le moissonnage soit effectué. Donc on est bien dans un dispositif de type asynchrone. Alors, ce protocole OAI, comment peut-on le décrire ? Le protocole OAI, il repose sur deux éléments qui mettent en œuvre ce protocole. Il y a d'un côté le fournisseur de données, on a gardé le terme anglais data provider, DP, et de notre côté, le fournisseur de services, SP. Ces deux éléments construisant de façon totale le protocole d'échange OAIPMH. Un des autres éléments de base, c'est que l'interrogation se fait forcément via une seule interface qui est proposée par le provider de service. Et ce que l'on trouve dans cette interface, c'est un grand nombre de notices simples en dublin core non qualifiées. Et ces notices sont relatives à des ressources numériques qui peuvent être et qui sont forcément dispersées dans différents entrepôts qui sont gérés par les data providers. Donc on voit bien qu'on dissocie deux rôles. Le rôle du data provider, c'est de garantir que la donnée existe à un endroit fiable, sûr, sécurisé, qui sera présent 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à côté de ça, il y a une autre opération qui est celle faite par le provider de service, qui lui se débrouille pour collecter toutes les informations via les métadonnées et offrir la possibilité de rechercher au sein de ces métadonnées. Un autre point que vous pouvez trouver étrange si vous ne connaissez pas bien, c'est qu'il est dit que ces données sont en dublin core non qualifié. C'est comme ça qu'a été défini l'OAIPMH au début. Et immédiatement après avoir défini ça, le chapitre suivant explique que ce protocole d'échange est parfaitement capable d'utiliser tout type de métadonnées déposées, à condition qu'il soit déclaré et qu'il puisse être accessible aux différents services et providers qui souhaitent l'utiliser. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, avec l'évolution du XML sur lequel, je vous rappelle, repose l'OAIPMH, toute entité qui est capable de déposer un modèle de métadonnées et de le partager avec suffisamment de monde pour que ça ait un sens, peut être un candidat à un partage via le protocole OAI. Or, on a déjà parlé du LOM, donc on passe du Dublin Core au LOM, l'OMFR pour nous en France, mais comme le disait le collègue de Lille hier, on a étendu ça au schéma CDMFR pour organiser l'offre de formation. Et on pourrait parfaitement envisager d'étendre ça à tout type de schéma. Alors attention quand même, le Dublin Core, je vous rappelle qu'il y avait une quinzaine non qualifiée, il y avait une quinzaine de balises dedans. Donc 15 éléments. Donc ces 15 éléments, vous imaginez que c'est quelque chose, si je veux faire une base pour mettre 15 éléments, c'est pas très compliqué. En plus, ils sont pas hiérarchisés, donc je les mets les uns à côté des autres, du relationnel, ça va très bien. Quand on commence à attaquer le LOM, vous commencez à rentrer dans des problèmes parce que vous avez donc quelque chose comme 80 et quelques balises qui renferment 75 ou 16 éléments indépendants qui sont en plus hiérarchisés. Quand vous essayez de mettre ça dans une base relationnelle, ça commence à coincer. Et alors si vous imaginez que vous pouvez étendre... Alors quand on rentre dans le problème de l'offre de formation, on est confronté à quelque chose qui peut être récursif. C'est-à-dire que je peux avoir un élément qui s'appelle entité d'enseignement, qui est l'université, qui contient des départements, qui sont aussi des entités d'enseignement, qui contiennent des UFR, qui contiennent des laboratoires, qui contiennent des équipes. Et donc, à gérer, vous voyez, on commence à rentrer dans des choses très difficiles. Donc, le fait que ça puisse être étendu au-delà du Dublin Core, on en a beaucoup profité pour aller vers le LOM, pour aller vers l'offre de formation. Mais là aussi, on va rapidement être confronté à des limites qui sont plus techniques qu'autre chose. Et déjà, si on savait implémenter Dublin Core et LOM, ça serait déjà très bien. Alors, que permet ce protocole OAI ? Normalement, le protocole OAI doit permettre de créer automatiquement, d'alimenter et de tenir à jour ce qu'on appelle des réservoirs d'enregistrement. Ces réservoirs d'enregistrement contiennent essentiellement des métadonnées du Dublin Core ou autres, et ces métadonnées doivent signaler, décrire et rendre accessibles les documents sans les modifier ni les dupliquer. Donc on touche ici à la notion d'unicité. Ma ressource est quelque part, elle est unique, et ce que je diffuse, c'est l'information sur cette ressource. Le protocole OAI fournit théoriquement une visibilité accrue du fond d'un fournisseur de données. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans le protocole OAI, tout fournisseur de données peut rapidement se transformer en un fournisseur de services avec pour objectif d'afficher ses propres données, mais aussi de les associer à des données voisines en collectant les métadonnées d'un fournisseur proche. Alors cette philosophie, elle est très très importante quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe pour le web. Nous sommes dans une culture de mesure de performance, nos ministres sont en train d'y être confrontés d'ailleurs, et dans cette culture de mesure de performance, vous avez envie de savoir si vous faites des sites web qui sont fréquentés, comment ils sont fréquentés et à quoi ils servent. Et effectivement, si vous êtes confronté à une population qui est susceptible de chercher des informations, vous êtes dans un domaine pointu, ben si vous êtes capable de proposer vos données plus celles des autres et de les proposer de façon relativement efficace, les gens viendront chez vous même s'ils cherchent les données de quelqu'un d'autre. Et donc vous pourrez justifier auprès de vos bailleurs de fonds le fait que vous avez le site le plus performant, le plus efficace. Et donc en ce moment, il y a effectivement cette dérive qui fait que des gens qui étaient a priori de simples fournisseurs de données au début se retrouvent dans une situation dans laquelle ils deviennent aussi des fournisseurs de services pour valoriser leurs propres données. Mais en devenant fournisseurs de services, la valorisation de leurs propres données repose sur, en quelque sorte, l'exhaustivité de ce qu'ils peuvent proposer. Et il y a cette forme de dérive qui est assez amusante en ce moment, un concours du meilleur fournisseur de services. Alors, ce protocole OAI, dans le protocole OAI, le fournisseur de données doit nécessairement mettre en place une application qui soit compatible OAI. Le protocole lui impose le fait de fournir des adresses qui soient compatibles avec les règles du HTTP et que la façon dont ces adresses puissent être accessibles soit compatible avec les différentes règles du XML. Le fournisseur de services, lui, doit être capable de localiser les entrepôts et de collecter les métadonnées, les rassembler et organiser leur présentation. Et de ces deux cahiers des charges, en fait, pour le fournisseur de données et pour le fournisseur de services, on se rend compte que dans cette histoire de protocole OAI-PMH, plus que le protocole, c'est l'organisation qui nous apporte une plus-value. C'est le fait que l'on ait parfaitement organisé les différentes fonctions qui fait que ce protocole a eu du succès et est extrêmement efficace. Bon, alors, ça, c'est pour après. Maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'était un petit peu la façon dont ce modèle de données OAI-PMH pouvait fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une ressource OAI-PMH ? Alors, la première chose...
Vous pouvez mettre le tableau un tout petit peu plus au milieu.
Plus au milieu.
Ça ne vous gêne pas. Hein. Pardon.
La première chose qu'il y a, c'est une ressource. Le ressource en anglais d'ailleurs, pardon. Il est bien fin celui-là. C'est le premier élément qui qualifie ce que va être un système OAI. Ensuite, à l'intérieur de cette ressource, il y a des éléments qui sont regroupés sous la forme de records. Un record est contenu dans sa ressource. Alors, le record, c'est quoi ? Ben, finalement, pour les informaticiens, c'est quelque chose d'assez classique, c'est l'enregistrement, l'entité qui va être capable de lire. Dans notre monde, c'est quelque chose que l'on pourrait considérer comme une notice. Et cette notice, si on dit que c'est une notice, ça ne suffit pas. Il faut, pour se conformer au monde des informaticiens, donner le format dans lequel est fournie cette notice. Et donc on est dans l'enregistrement de l'informaticien ou dans la notice avec son format pour celui qui est dans le monde des bibliothèques. Alors ensuite, lorsqu'on a ces ensembles de notices, on va mettre un certain nombre, elles constituent ce que l'on appelle des items. Et l'ensemble de ces items sont stockés à l'intérieur d'un repository. Donc, lorsque j'ai un système OAI, ce qui est tout à fait clair, c'est que je suis dans une logique de hiérarchie et d'emboîtement. Et cette chose-là, ça pose un problème, ou du moins ça demande une évolution par rapport aux bases de données qui étaient conçues pour être essentiellement dans une première phase des bases de données relationnelles. Bases de données relationnelles, j'ai des tables. Dans une table, j'ai des colonnes. Sur chacune des colonnes. Dans une base de données relationnelle, j'ai des tables. Les tables sont constituées de lignes. Et dans les lignes, il y a des colonnes, avec éventuellement une des colonnes qui contient une référence pour toucher une autre table, qui elle-même contient des lignes, dans lesquelles il y a des colonnes, avec éventuellement des références pour constituer une autre table. Donc, vous concevez très bien que je vais d'un endroit à l'autre en donnant des attributs à un individu. Maintenant, imaginez ce que ça pose comme problème. Lorsqu'au lieu d'avoir une table qui contient un renvoi vers une autre table, j'ai une table qui contient un objet, qui contient des sous-objets, des sous-objets, des sous-objets. Je me retrouve en train de multiplier de façon exponentielle les relations qu'il y a entre les tables. Et ce qui se passe, c'est qu'autour de l'OAI BMH, il y a une évolution qui est en train de se faire vers des bases de données structurées de type base XML native, ou alors sur les très gros systèmes de bases de données, il y a des connecteurs qui sont des connecteurs XML sur les bases relationnelles. Alors, comment on s'en sort au niveau de tout ce système ? En fait, quoi qu'il arrive, il y a une convergence entre des bases de données relationnelles et des bases de données structurées. C'est que ici, au niveau d'un des objets, il y a un identifiant unique. Et l'identifiant unique se retrouve au niveau de l'item. Et en fait, au bout du compte, si on fait abstraction de la technique, la chose qui devient utile, c'est que, à partir du moment où je sais trouver une ressource, je vais fouiller les différents repositories de cette ressource pour obtenir des ID. Et une fois que je connais cet ID, je n'ai plus ensuite qu'à aller demander, renouveler la connexion que j'ai pu avoir précédemment pour retrouver le même ID. Ce qui doit être garanti dans l'OAI PMH, c'est l'unicité de cet ID. Le reste découle du fonctionnement de la base. Est-ce que c'est clair ?
L'ID est généré comment ? C'est généré par le système ou bien c'est à la saisie du
domaine ? Alors, normalement, l'ID, il est propre à chacun des serveurs. Et en général, ce qu'il faut faire absolument, c'est vérifier que le préfixe que l'on met est un préfixe qui soit unique. Alors, alors je ne sais pas, mais d'un certain, ce qu'ils font, c'est que l'ID est associé à l'identifiant unique de l'établissement qui fournit la ressource. Comme ça, c'est... Bien. Alors, là, ça j'ai dit. Ces items, on a dit qu'ils appartenaient à un repository. Mais si on rentre dans cette logique-là, on se retrouve avec quelque chose qui est assez peu structuré. Et en fait, même si je suis capable, dans une ressource donnée, d'avoir plusieurs repositories, je n'aurai accès qu'à un seul niveau de complexité. Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur d'un repository, il est possible de constituer différents sets. Ces sets pouvant être assimilés à des collections, en quelque sorte. J'ai une collection à l'intérieur d'un repository qui appartient à une ressource. Et à l'intérieur de cette collection, je vais être capable de déposer des items. Et là, je rentre dans un autre type de structuration qui est une organisation qui peut être orthogonale à une organisation thématique ou par le contenu de mes informations, qui est une organisation purement technique au sein du protocole. On peut par exemple envisager, alors que je prenne un exemple clair, ce que nous on a fait, au niveau de l'organisation des ressources à l'ENS, il y a une première partie des ressources qui est organisée à l'intérieur des sites de ressources pour l'enseignement scolaire. À l'intérieur de ce set sur l'enseignement scolaire, vous trouvez des ressources de sciences de la Terre. À côté de ça, un autre set est celui des ressources du master, dans lequel vous retrouvez aussi des ressources de sciences de la Terre. Ce choix est possible. On aurait parfaitement pu décider de faire des sets purement thématiques et décider chaque fois qu'on met la géologie d'aller la trouver à l'intérieur. Tout ça pour dire que ces aspects techniques du protocole sont parfaitement dissociés du contenu que vous pouvez mettre dans vos métadonnées. Et il faut faire attention de ne pas se perdre dans des discussions infinies avec le monde des informaticiens, parce qu'on a envie que les sets collent à l'organisation que l'on veut mettre. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Le set est une façon d'organiser l'information pour que le protocole OAI-PMH fonctionne. Si votre informaticien se débrouille pour que ça marche d'une certaine façon, tout va bien. Il faut quand même limiter cet aspect complètement cloisonné, parce qu'il va de soi que lorsque vous avez un outil avec des formulaires pour rentrer des données, l'outil est souvent dépendant de la structure de la base dans laquelle il se trouve. Et vous pouvez induire des usages un peu tordus si effectivement le géologue doit rentrer à la fois quelque chose d'un côté puis de l'autre, parce qu'il est dans deux sets différents. Donc voilà pour les sets. Alors, une fois qu'on a construit cette structure, quel est le fonctionnement qu'on lui associe? Alors, ce fonctionnement, on en a déjà parlé plus ou moins hier, c'est la notion de moissonnage, harvesting en anglais. Alors, cette notion de moissonnage, elle consiste en fait, pour celui qui est un fournisseur de services à aller moissonner des dépôts. On va le mettre en vert. Et pour aller moissonner ces dépôts, il va interroger le data provider. Et cette interrogation se fait au moyen de 6 questions. 6 questions de base, qui sont les éléments de base du protocole. Alors, ces 6 questions. La première, on va demander de s'identifier. Assez simple. La deuxième, on va demander de lister les metadata formats. La troisième, lister les sets. Quatrième, lister les records. La cinquième, les identifiants. c'est la dernière. Voilà, donc là, on touche finalement à la simplicité de ce protocole OAI-PMH. Premièrement, il arrive, il demande l'identification. Question simple, qui êtes-vous ? Deuxième chose, et c'est ça qui fait sa force, il demande quels sont les métadatas formats que vous utilisez. Et donc c'est ici où, effectivement, vous pouvez envoyer sur du DC, ça il le fait par défaut, vous pouvez parfaitement envoyer sur du LOM. Vous ne pouvez pas encore envoyer sur du LOMFR. Alors là, ça va être de ma faute bientôt, donc il ne faut pas que je me dise trop fort. Donc bientôt, dans quelques jours, dès que Rosa Maria m'aura envoyé le schéma, le LOMFR sera accessible. Vous pouvez y aller, le site existe déjà. Ben, tiens, on va faire un peu de pub. Si vous allez sur le site lom-fr.fr, vous verrez que ce site existe et qu'il y a un espace prévu pour accueillir le futur schéma. Et l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où j'aurai un espace où j'aurai pu déclarer un schéma de façon définitive, c'est le ministère qui a acheté le site normalement, sauf révolution très forte, on ne devrait pas le perdre, on ne devrait pas se le faire voler par qui que ce soit, on annonce le nom du site où se trouve le schéma, le protocole va chercher le schéma, et puis ensuite il moissonne les données. Donc c'est ça qui fait sa force, et pour CDMFR, là j'avais été plus malin, on avait établi tout de suite le site contenant le schéma, et donc il a été possible immédiatement, sans aucune forme de procès, de mettre en place le CDMFR. Une fois que j'ai trouvé un format que le protocole sait lire, c'est-à-dire grosso modo qui respecte les standards HTML, il interroge les 7 qui sont disponibles, pour savoir dans quelles collections sont effectivement disponibles. Il interroge pour voir quels sont les enregistrements auxquels il peut accéder. Et point très important, il liste les identifiants qui sont associés à ces enregistrements. Il prend les identifiants, il les met dans un fichier très précieux sur le moissonneur lui-même, et dernière étape, bien sûr, ben, je récupère l'enregistrement que je veux récupérer. Et cette chose-là, ce moissonnage, c'est quelque chose qui se fait donc de façon asynchrone, à des moments précis. Alors on peut moissonner toutes les nuits, on peut moissonner toutes les semaines, tous les mois, ou alors souvent il y a aussi une touche verte pour pouvoir moissonner dans l'instant, pour être sûr qu'après avoir fait une manip, on récupère des données correctement moissonnées. Donc voilà, c'est finalement très facile, c'est un protocole qui est très 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 élémentaire, très robuste, et qui donc fonctionne de façon très efficace. Alors, une fois qu'on est arrivé à ce type de moissonnage, ça veut dire que le fournisseur de services dispose des enregistrements dans lesquels se trouvent les métadonnées qui ont été écrites par le fournisseur de données. Donc on est dans une logique dans laquelle je vais avoir ici, bon, je vais faire mon schéma à l'envers, je vais avoir ici un certain nombre de fournisseurs de données. D'habitude, on les met à la base, je les mets au sommet de la pyramide. Ces fournisseurs de données, ils ont quelque part dans leur base mis en place un système dans lequel ils ont respecté un format, ils ont mis à disposition des enregistrements à l'intérieur d'items eux-mêmes dans une ressource, et j'ai des fournisseurs de services qui vont aller moissonner tout ce qu'ils veulent prendre, et ce que je vois, c'est que même si j'ai plusieurs fournisseurs autour de la même valeur, je ne moissonne que qui je veux. Une fois que le système est mis en place, ici, j'ai récupéré donc des enregistrements contenant des informations et chacun des fournisseurs de services va rentrer dans la logique d'affichage. Éventuellement avec des formes différentes. Lui, ce qu'il va faire, c'est proposer finalement un accès à tout ce qu'il a récupéré. Et pour le moment, ici, on n'est que sur de la métadonnée. Alors que le provider, lui, il est sur de la donnée. Et le reste de l'histoire est extrêmement simple, puisque le protocole OAIPMH dit que finalement, on repose sur des hyperliens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon service provider m'a affiché une information qui m'intéresse, eh bien moi, en tant qu'usager, je vais piocher l'information à l'endroit où elle se trouve. Que je fasse pas de bêtises, que je n'aille pas chercher des choses que je n'ai pas. Voilà. Et en fait, ce qui est extrêmement fort dans ce protocole OAIPMH, c'est que chacune des couches, alors ici j'aurais dû mettre ma couche usagée, et c'est l'usager qui interroge la base de métadonnées. La base de métadonnées lui fournit. Ça. L'usager interroge le fournisseur de service. Il obtient de la part du fournisseur de service une métadonnée qui lui fournit une adresse et il va directement lui-même piocher avec cette adresse à l'endroit où se trouve l'information. Et ce qui fait, d'après moi, la beauté et le succès de cette affaire-là, c'est que chacune des couches est quasiment isolée de la suivante, et toute communication entre la couche d'à côté se fait avec des protocoles déclarés et très simples. Donc ici, je suis sur de l'OAIPMH, ici, je suis sur du HTTP, ni plus ni moins. Alors maintenant, je vais rajouter une petite chose derrière ça, qui est mon dada actuel, la réflexion qu'on mène en ce moment. Ce qui est encore plus intéressant, ce qui pourrait être un progrès très très décisif, c'est que si je suis ici dans le cadre d'une donnée qui est dans une base de données, cette donnée, si c'est une page web, c'est pas très intéressant parce que cette page web, elle va pouvoir s'afficher de façon très belle à l'endroit où j'en ai besoin. Mais si elle fait partie d'un contexte, c'est-à-dire si j'ai envie ici, par exemple, de récupérer mon carré noir et mon rond noir, quand je vais les mettre ensemble ou successivement, ça ne va pas être terrible. L'idée, ça serait qu'au lieu d'avoir un carré noir, j'ai le contenu de mon carré, alors je ne sais pas comment le représenter, qui soit à l'intérieur d'un carré virtuel, dans un rond virtuel, et le contenu se trouve seul stocké dans la base. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, mon utilisateur, ce qu'il va recevoir, ça n'est pas un carré noir, et ça n'est pas un rond noir, il va recevoir simplement le contenu du carré et le contenu du rond qu'il pourra très bien représenter dans un ovale. D'accord ? Et là, on a franchi une étape supplémentaire qui est, au lieu de fournir, au lieu de recevoir du data provider une connaissance et la façon dont cette connaissance est emballée, je reçois uniquement cette connaissance et je l'emballe localement comme je le souhaite. Donc là, on est dans une logique
qui... C'est une capture, alors. C'est une capture.
Vous avez... L'idée, c'est simplement d'avoir ici, comme pour les métadonnées, du XML. Votre document, il est purement XML. Et il n'a aucune balise de mise en forme.
Ça veut dire que le data provider transforme le document que quelqu'un aura écrit. C'est-à-dire, si moi j'écris, je ne sais pas quoi, un cours, mon data provider va enlever ma mise en forme pour n'avoir que les informations à l'intérieur. Comment ça se passe concrètement? Je ne comprends pas ça.
Alors, justement, très bonne question. Comme vous le décrivez là, c'est malheureusement la chose qui est vécue aujourd'hui par les gens et qui est mal vécue. Parce que si vous avez mis une forme, vous avez envie que cette forme, elle serve. Et vous avez décidé de mettre des titres comme ci, des sous-titres comme ça et des machins comme ça. Et effectivement, si on rentre dans cette logique-là, je pense qu'on n'y arrivera pas. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui met de la forme, il est content de la forme qu'il met. L'idée, c'est de refaire encore un pas en arrière. Pourquoi avez-vous mis de la forme? Est-ce que c'est votre boulot de mettre la forme? Sur un document que vous écrivez, on peut se dire que oui. Mais déjà, si vous écrivez un bouquet, ça ne va plus être votre boulot. Vous allez envoyer votre texte, on va vous demander du caméra ready. Et on va vous dire, écoutez monsieur, les titres de niveau 1B, ce sont des obliques avec la fonte Times, et les titres de niveau 1, c'est des Helvetica Bold, machin, et on ne vous demandera pas votre avis, ça sera comme ça. Donc si vous publiez sur un bouquin, c'est déjà le cas. Si vous publiez sur le web, si vous êtes sur un site digne de ce nom, avec des gens qui le maintiennent vraiment bien, ils ont mis en place une charte graphique. Et dans cette charte graphique, pour ne pas vous choquer, ils se sont auto-censurés et ils n'ont pas mis tout ce qu'il était possible d'y mettre. Aujourd'hui, avec des chartes graphiques et des feuilles de style, vous pouvez parfaitement tout gérer, mais vraiment tout, de A à Z. Le fond, la forme, l'encadrement, les fontes, tout. Et si on vous proposait des outils qui vous permettent, lorsque vous tapez un texte, de faire votre vrai boulot, un boulot du crâne, je tape du texte, et vous allez discuter avec les gens qui font la charte graphique, éventuellement si vous avez des idées très fortes sur la façon de présenter un texte, mais vous tapez votre texte, vous donnez le texte, et ce texte apparaît sur le web, apparaît dans les plaquettes de votre université, apparaît n'importe où, sous la forme qui a été décidée par celui qui décide de valoriser votre texte. Et là, on a gagné. Parce qu'en fait, ce que vous allez donner à votre université, ça n'est pas une cochonnerie dans laquelle les clés du camion sont quelque part vers Seattle. C'est vraiment votre texte lisible, structuré. Vous avez dit, ça c'est un chapitre, ça c'est un sous-chapitre, et les sous-chapitres s'enchaînent comme ci, comme ça. Et à ce moment-là, on change de monde, parce que ça veut dire que si vous faites par exemple un cours, je ne sais pas moi, sur la physique thermodynamique, vous êtes super génial sur le premier principe. Et sur le second, vous êtes un peu ramassé, votre cours il n'est pas terrible. Mais à côté, dans l'université d'à côté, il y a un mec qui, au premier principe, c'est rien, et sur le second principe, quand il est nickel. Que fait l'étudiant? L'étudiant, il va être capable d'aller chercher le premier principe de la thermodynamique dans mon université A, le second dans l'université B, et simplement afficher sur son écran un document qui contiendra premier principe, second principe, enchaîné avec exactement la même forme. Et s'il veut, il pourra même l'imprimer. Il se sera donc fait un petit bout de bouquin dans lequel il aura les meilleurs cours qu'il estime, lui, être disponible sur un sujet compliqué. Et on arrive dans une logique où finalement le data provider devient vraiment... C'est finalement la multiplication de la structure, c'est qu'à partir du moment où tout le système contribue non pas à envoyer des objets qui soient cloisonnés et juxtaposés, mais à fondre les objets, on est vraiment dans une logique dans laquelle on peut mêler la connaissance.
L'intérêt, je pense, c'est de pouvoir adapter la présentation à ce que l'utilisateur attend réellement. Par exemple, l'affichage sur un téléphone portable, l'affichage pour de la présentation assistée ou du document écrit. Je pense que c'est ça.
Ah, ça, c'est pour le fournisseur, ça, c'est le premier objectif. Effectivement, je suis un fournisseur et je suis capable, parce qu'on m'a donné uniquement le contenu, de le faire afficher partout là où j'ai besoin qu'il soit affiché. Alors ça, l'exemple qu'on a vu... sur l'offre de formation, c'est assez phénoménal. Alors malheureusement, il faut prendre toutes les universités, tous les presses français pour y arriver. Mais vous avez les gens de Strasbourg qui ont passé un contrat avec une société d'édition privée. Et la société d'édition privée, elle leur a fait des plaquettes en allant piocher ce dont il y avait besoin pour faire des plaquettes. Parallèlement, l'université de Rennes, elle avait un SQIO qui avait besoin de communiquer vers les lycées. Et sans qu'il y ait besoin de modifier quoi que ce soit à l'offre de formation universitaire, ils ont récupéré uniquement les informations dont ils ont besoin pour faire les plaquettes qu'ils ont fait en interne et diffusées. Et donc, on est, je pense, dans quelque chose qui, amplifie la portée de ce que peut nous amener l'OM.
Justement, vous avez en partie répondu justement avec l'exemple de l'édition. Je me disais que pour arriver à tout ça, il va falloir un travail humain qui va être une plus-value. Et dès lors qu'il y a une plus-value, ça ne peut plus rester en libre accès comme ça pour tout le monde. Il va falloir rentabiliser, entre guillemets, l'affaire. Et donc, ces accès à des formes d'archives ouvertes, non pas forcément peut-être payantes pour l'étudiant, s'il a déjà payé des droits d'inscription, mais pas forcément en libre accès autant qu'on pourrait se l'imaginer.
Ça, je vous rejoins complètement sur ça. Je pense que...
Il m'interroge là depuis un petit moment.
On a un défaut sur cette notion d'archive ouverte, c'est quelque chose qui est très anglo-saxon,
oui,
ça
oui.
vient de chez eux, c'est très anglo-saxon et ça vient du monde de la recherche, parce que le monde de la recherche n'a pas eu le choix. Il a fallu l'encyclopédie de D'Alembert, c'était il y a très très longtemps. Donc nos chercheurs en France sont parfaitement adaptés au fonctionnement de la recherche anglo-saxonne et on vit là-dedans. Et en fait, ce que vous dites, c'est exactement la problématique du coût de ces choses-là. Beaucoup de gens font l'erreur de croire qu'en France, l'éducation et l'accès à l'éducation est gratuit. C'est pas vrai. Il coûte, mais quelqu'un le paye.
Oui, voilà.
Et le problème qui existe jusqu'à maintenant, c'est que personne ne se pose la question
de qui paye,
et de savoir s'il vaut mieux payer ceci ou payer cela.
Absolument.
Et quand on est dans une logique de ce type-là, outre le point dont on a parlé hier, qui disait qu'effectivement on va se rendre compte, si on fait ça pour les académies, que les recteurs ont tous payé pour le même document, qui est exactement de la même façon et qui souvent a été piraté d'une académie sur l'autre, ça déjà, ça va être le premier point. Mais ensuite, on va se dire, ben voilà, qu'est-ce qui vaut le coup de payer? Parce que quoi qu'il arrive, la fonction de conservation, je vais dire, celle-là, elle ne pose pas de problème. Il est certain qu'une université ou n'importe quel établissement qui produit de la littérature numérique a envie de la conserver. Donc je pense que le coût au niveau des data providers, ce coût-là sera forcément absorbé, d'une façon ou d'une autre. Par contre, ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir un tamisage. Parce qu'aujourd'hui, la situation est encore celle dans laquelle mes collègues comme moi, on a des portables qui sont remplis de données numériques, dont personne ne sait ce qu'elles peuvent être, sauf ceux qui, malheureusement, ont accepté de le dire à Google. Mais tous les autres qui n'ont pas pris Google Desktop, ils ne savent pas ce qu'ils ont dans leur portable. Et quand vous êtes en réunion, prochaine réunion où vous avez des gens avec des portables autour de vous, essayez d'imaginer la quantité de présentations, de documents écrits, de rapports, etc., qui sont autour de la table, et dont il y a une seule personne qui a connaissance. Donc ça ne peut plus durer. Mais ce qui va se passer, c'est que nécessairement l'université va trier. Elle va sélectionner les documents qui seront des documents qui font partie de son patrimoine, de ceux qui n'en font pas partie.
Oui, alors là, il faudra des critères scientifiques. Qu'est-ce qui fait partie du noyau dur des connaissances et qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre de l'éphémérité et
absolument.
L'obsolescence rapide.
C'est une très grave question.
Absolument. C'est là où, alors là, il va falloir se prendre la tête.
Hein. Et c'est, si vous voulez ça, c'est une des raisons pour laquelle...
Ça commence.
Ah ben, il faut le faire vite. Hein. Mais c'est une des raisons pour laquelle nos décideurs ne veulent nous voir arriver d'un salaire avec notre indexation. Hein. Parce qu'il va falloir qu'ils prennent des décisions. Ça, c'est la chose qu'il faut le moins bien, de toute façon. Donc, mais c'est une réalité. Il va falloir trier ce que l'on décide. Et par contre, ce qui est clair, c'est qu'ici, il y a une plus-value très forte au niveau du service.
Bien sûr.
Et je pense qu'en ce moment...
C'est tout l'intérêt de l'affaire.
Voilà. Et comme vous le disiez, votre réaction, c'est vraiment extraordinaire parce que vous dites tout de suite, ben voilà, c'est des éditeurs qui vont venir là parce qu'il y a de l'argent à gagner.
Ah.
Oui, mais pourquoi ? On pourrait très bien
s'y mettre.
Parce qu'il y a de l'intelligence aussi.
Absolument.
Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'ils prennent l'intelligence aux universités et qu'eux gardent l'argent. Mais ça, on est habitué.
C'est le même profil économique qu'avec les éditeurs
commerciaux. Très, très habitué. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. L'université est plutôt en avance sur ses démarches par rapport aux éditeurs. Et donc, là, il y a effectivement quelque chose qui a un coût, qui a une plus-value et qui va certainement... poser problème dans des délais courts. La troisième couche, la couche de présentation, ça c'est évident qu'elle ne fait pas partie de notre métier. Là je crois qu'il va se développer probablement des métiers autour de la communication. Les publicitaires qui ne gagnent plus assez d'argent, on va les voir arriver dans ce monde-là, je pense. Je prédis ça vous voulez, je signe, et puis si j'ai raison, demandez une bouteille de champagne. Mais je pense que les communicants vont se placer là-dessus. Si vous regardez, si vous n'avez pas filtré Google, ça commence déjà à arriver. Google vous amène sur des endroits dans lesquels vous avez du sponsoring pour avoir de l'organisation d'informations.
Oui,
vous êtes par machin, par bidule.
Oui.
Et donc, Google fait payer ce service. Donc là, pour moi, ça ne nous appartient pas. Et le dernier, ben, c'est l'usager. Alors, c'est là où il faut qu'on éduque un peu cet usager pour qu'il sache quoi faire. Mais bon, voilà donc une petite digression au-delà de l'OAI. Donc, on est mis en place.
Je m'interrogeais aussi, si je puis me justement, par rapport à tout ça, qui tend un petit peu à privilégier effectivement l'édition numérique. Or, l'édition papier continue, et dans le domaine justement scientifique, c'est là où en ce moment elle est forte. Il y a énormément de titres. Moi, je suis trois éditeurs hein, justement là-dessus. C'est hallucinant le nombre de titres papier, de revues, de nouvelles, qui sont en train de sortir. Dans les sciences de l'éducation, par exemple.
Mais des revues ou du livre hein.
Les deux. Et je me dis que justement, le noyau dur, peut-être, va rester peut-être sous la forme papier, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. 230 pages, c'est quand même encore mieux sur le papier qu'en livre.
Bah oui. C'est sûr. La vraie question, c'est de savoir s'il vaut mieux que vous laissiez imprimer les 232 pages par quelqu'un qui en imprime 200 000 et qui n'en vendra que 50 000 et passera les offres au pilon, ou s'il vaut mieux que ça soit vous avec votre imprimante et qui les imprimiez chez vous.
Voilà, ça c'est encore, c'est encore autre chose. Et en même temps, je me dis que si on isole ces données-là du reste du monde de l'édition traditionnelle finalement, qui continue à vivre, est-ce que on va pas créer une distorsion? Parce que moi je me rends compte hein, dans les sites pédagogiques où il y a des enseignants qui écrivent des choses et ils ne savent pas qu'il y a des études extrêmement sophistiquées et d'une richesse incroyable ont été publiées là. Bien sûr, sous la forme papier. Ils ne vivent qu'avec ce qui est en ligne.
C'est des mondes qui...
Et alors, qui sont en train de se cloisonner et qui se ferment. Et alors, notamment, c'est ça qui m'a paru, c'est que j'ai trouvé que beaucoup de praticiens s'isolaient de la recherche alors qu'on voudrait tout le contraire. Ça m'a apparu là depuis à peu près un an.
C'est une réflexion effectivement qui est très importante.
J'ai pas de réponse. Hein,
moi non plus.
Je me pose plein de questions, c'est tout.
Mais une des questions que je me pose, c'est. Je pense que le problème n'est pas le même si on considère de la production papier francophone et de la production papier anglophone. Alors, je ne connais pas bien les sciences de l'éducation, même si j'ai fait un stage dans cette maison, mais sur l'édition scientifique. Ce que j'observe auprès de mes collègues chercheurs, c'est qu'ils sont prêts effectivement à faire imprimer des livres de cours, d'exercices, de TD, de tout ce qu'on veut, mais ils le font en langue anglaise.
Oui,
et,
ça
sera un
problème.
Et c'est
encore l'hégémonie culturelle.
Le marché d'un livre de travail existe encore avec la masse anglophone, parce que la science se fait en anglais, grosso modo, disons les choses franchement, c'est ça. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a la même hégémonie, la même facilité en langue française, et est-ce qu'en fait, en essayant de maintenir des gens qui gagnent de l'argent, finalement, sur le fait de détecter une publication intéressante, la mettre en forme, l'imprimer. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de se tirer des balles dans le pied alors qu'il vaudrait mieux utiliser le web pour permettre aux gens d'accéder à la même information de la même façon, mais en réduisant dramatiquement les coûts de production, en sautant l'étape de création de livres. Je ne sais pas. De notre côté, je suis le premier à être content d'acheter un beau bouquin. Il y avait quelques bouquins au pied du sapin, parce qu'un bouquin, ça reste un bouquin.
Les bouquins de travail aussi.
Il y a des choses qui sont mieux faites sur le web. Il y a des cours en ligne, par exemple, dont on voit bien que sur papier, ce serait plus. Enfin, ça serait pas pareil. La mise en forme serait différente.
Ah, mais pour un cours, oui.
Et pour un cours, c'est très net que le web a vraiment un intérêt, quoi. Alors, effectivement, ça n'empêche pas ce que vous dites sur le fait qu'il y a des tas de chercheurs qui savent plus chercher
sur les outils papier. Donc en effet, il y a plein de choses qui se publient et ils en sont.
Mais moi, je le vois chez les étudiants.
Mais bien sûr, mais chez les étudiants,
et là, ça se voit pose aussi.
Ils ont l'impression qu'avec Internet, ils savent tout. Ils trouvent toujours quelque chose. Donc ils ont
bien sûr qu'il y avait des tas de
trucs. Absolument.
Alors, oui, mais de toute façon, à un moment donné, je pense qu'on ne coupe pas à avoir du texte imprimé.
Voilà, c'est
certain.
À avoir ce discours qu'il faut les deux.
La question que je me pose, c'est à quel moment est imprimé ce texte ? Est-ce que dans le futur, dans les années qui viennent, on va encore avoir besoin de faire que le bouquin soit quelque chose fait par un spécialiste de la manipulation du livre ? Ou est-ce que finalement, je ne vais pas en arriver à avoir quelque part dans mon quartier, comme j'ai un cordonnier, celui qui va me relier les pages que je me serai imprimées pour me faire non pas le livre, hein, mais un livre composé de sous-livres que je me serais fait moi-même. Pour répondre à ta question, Charles-Henri, est-ce que vous connaissez l'initiative des étagères virtuelles d'Aurélie ? Aurélie est un éditeur qui pratique, qui édite beaucoup de choses pour les informaticiens, pour les techniciens. Et une des propositions, et tous les bouquins sont faits en docbook, donc du XML, et ils sont finalement, ils prennent le docbook et ils en font un livre magnifique. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque aussi, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vous proposent une étagère virtuelle. Et vous achetez cette étagère pour une durée. Et cette étagère, une fois que vous l'avez achetée, vous pouvez changer les bouquins avec une périodicité qui dépend du prix que vous avez payé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le bouquin virtuel, on l'utilise grosso modo pour aller chercher le machin qu'on voit une fois tous les 3 mois parce qu'il y a un bug informatique qui se présente et on ne savait pas. Et le chapitre qui correspond au cœur du boulot, ben, comme c'est vraiment une vraie étagère virtuelle, on l'a sorti, on l'a imprimé, on l'a relié certes avec une spirale, c'est horrible et tout, mais on a la partie imprimée qui concerne le travail au quotidien. Et on a en plus accès à l'intégralité de l'œuvre pour aller chercher la chose qu'on va voir habituellement en allant feuilleter un bouquin. Oui. Et donc finalement, là on a une transposition des fonctions. Je suis dans mon bureau, j'ai ma bibliothèque à portée de main, je discute avec quelqu'un, je dis « Ah ouais, je tire mon bouquin, je feuillette mon bouquin et je vais chercher ce dont j'ai besoin. » Là, je fais la même chose en feuilletant le bouquin sur Internet et en étant capable d'appuyer sur « Print » pour pouvoir le lire.
Là, je suis entièrement d'accord.
Oui, mais au bout du compte, est-ce que ça ne veut pas dire que cette fonction d'éditer un livre, finalement, c'est quelque chose qui surcharge le coût du texte imprimé par rapport à une démarche qui serait celle d'utiliser le web pour l'imprimer soi-même? Alors après, il y a les livres de qualité, ça, c'est autre chose. Mais sur du livre utilitaire, hein, du livre de cours, du livre de bouquin, est-ce que c'est pas quelque chose qui va prendre le livre universitaire, le livre de travail universitaire?
Mais c'est vrai que les manuels de base de première année, par exemple, bon, il y a 1550 étudiants inscrits en première année de quelque chose, avec un exemplaire, un fichier, tout le monde veut l'avoir. C'est vrai que sur le papier, quand ils en achètent 10 exemplaires, ils se battent.
Oui, ils se font la queue pour réserver.
Donc, effectivement, ça, c'est imparable.
Oui, mais en même temps, ça enferme l'usage de l'information dans une relation individuelle. Ça veut dire que dans ce cas-là, à la limite, les centres de ressources documentaires, je veux dire, ils disparaissent. Je veux dire, ils n'ont plus d'existence.
Sauf si c'est nous qui nous abonnons aux étagères virtuelles et pas aux usagers finaux.
Oui. Je crois qu'il y a cette possibilité. Et d'autre part, je crois que on va chercher à la bibliothèque aussi ses semblables, ses pairs, c'est-à-dire ceux avec qui, à côté de qui, il est en train de faire autre chose et moi je travaille aussi. Et il y a cette communauté plutôt que je connais quand on est étudiant, j'imagine bien. Tout seul dans sa chambre, il fait un peu glacé, elle est au nord, il n'y a pas de soleil, et le propriétaire a interdit d'y fumer. Alors autant être à la bibliothèque, il fait chaud, et au moins j'ai l'écoute.
Mais effectivement, peut-être que ce que vous dites, c'est qu'il y a repenser à quoi ça sert et comment ça fonctionne.
Absolument.
Peut-être que c'est une grande question.
Il y a eu, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu, ça a un peu circulé sur Internet, une étude suisse, où on a demandé à des étudiants qu'est-ce que c'est pour vous la bibliothèque idéale? Donc c'était complètement déconnecté de les collections machin. Oui, oui. Pour un étudiant, la bibliothèque idéale, c'est un endroit confortable, où il y a des chaises, une belle lampe, une machine à café, voilà. C'est chauffé.
Voilà, voilà. Faut lire Umberto Eco. Il faut lire des bibliothécaires.
Il ne parle pas des collections, il ne parle pas des livres, non, il parle du
lieu. Mais bien sûr, c'est un drôlement important.
C'est du cadre de travail. Hein,
oui, c'est lisez la petite conférence d'Umberto Eco qui s'appelle Des bibliothécaires.
Oui, oui,
et
oui.
Voilà, vous aurez tout compris sur la bibliothèque finalement.
Mais ça en dit long parce que nous, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit nos établissements.
Et pourtant, il va falloir changer au milieu. Alors, peut-être pas au milieu parce que quand on ramène le café, c'est peut-être dommageable. Mais c'est tout à fait vrai. Dans les bibliothèques de lecture publique, là, actuellement, il y a un certain nombre qui réfléchissent, et notamment dans l'accueil, y compris les structures où il y a des petites salles où on peut aller langer les enfants, stocker les poussettes, aller faire chauffer les biberons, parce qu'on sait bien qu'une jeune maman qui vient avec celui qui a 3-4 ans et qui a le droit d'aller quand même écouter l'heure du conte, elle en a peut-être un tout petit, et qu'il faut qu'elle emmène aussi. Donc penser à cette relation profondément humaine, c'est justement renouer avec une des grandes missions de la bibliothèque.
Ça nous amène tellement loin, mais je pense quand même qu'on est au cœur du problème.
Pour bien sûr la question que je posais par rapport au livre de fond, moi je suis allé chez Luno hier emprunter des voir le livre qu'ils avaient, donc en sorte de la dernière navette. Il y avait un livre qui avait dit qu'il était en géophysique, donc quelque chose de simple pour le master, 98 première édition. 2005 ou 2006, troisième édition. Ça veut dire qu'ils font des petites éditions qui se vendent quand même. Ça.
Alors ça,
parce que master, c'est pas DEA, c'est pas approfondissement, c'était assez général.
Ça, sur le fonctionnement de l'édition française. Oui, mais j'aimerais qu'on mette sur la table les perfusions publiques qui sont derrière ces choses-là, quand même. Et savoir ce que ça veut dire. Je répète, moi je ne suis pas contre les livres, au contraire, je suis un premier consommateur de choses imprimées. Mais je m'interroge sur la pérennité de cette chose-là, parce que nos décideurs, le jour où ils vont se rendre compte de quelque chose, ils vont décider dans un couloir, comme ils savent parfaitement le faire, et on peut se retrouver avec des situations catastrophiques. Je me dis que ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de cette mutualisation des ressources, finalement, avec quelque chose qui est parti du monde ouvert, on a donné les clés du camion à l'usager. Et ça, c'est très dangereux. On a vraiment donné... Ici, celui qui a les clés du camion, c'est celui-là. Hein. Et c'est lui qui décide. Maintenant, on est dans une situation de ce type-là. Donc, moi, je suis extrêmement circonspect sur la façon dont on va gérer des archives ouvertes. Pour le moment, on est un petit peu comme il y a une dizaine d'années dans l'Internet.
Voilà.
Il y a 10 ans, dans l'Internet... Ce qu'on voulait faire, c'était être capable d'écrire une page web, d'avoir une adresse web. Et à partir du moment où on pouvait montrer à sa belle-mère ou à son beau-père, on était très content, on avait une page web. Le web a un peu évolué, et puis on s'est dit que finalement, il fallait un peu plus que ça. Il fallait que cette page web, des gens la voient. Et donc, on a eu tendance à se regrouper, à mettre des choses collaboratives, etc. Troisième étape, ça a été le grand moment des portails. Le summum du machin, pour être sûr que tout le monde voit et pour être sûr qu'on gagne de l'argent avec, tout le monde devait passer par le portail. On connaît encore quelques bibliothécaires qui sont convaincus qu'il faut faire des portails. Bon, ce moment, on sait qu'il est maintenant disparu, vous avez de l'information répartie, on accède de toutes les façons à cette information. Mais à cette époque-là, on est en train de vivre ça. En ce moment, on fait des archives ouvertes, n'importe qui, n'importe où, est capable, vous avez envie de monter un serveur OIPMH sur votre portable, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous ne serez peut-être pas moissonné, mais vous pouvez le faire. Et si vous êtes présent sur Wikipédia, vous allez être moissonné en disant « Voilà l'adresse de mon serveur envoyé, les gens vont y aller, ils vont le prendre, ils vont aller récupérer vos données. » Donc on est vraiment dans cette logique d'expansion du début du web. C'est la même chose au niveau supérieur, au niveau méta. Là, on est en train non plus de diffuser simplement les pages web individuelles, mais de diffuser des collections de ressources et de la connaissance. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Si ça suit la même route, ben, il va y avoir des concentrations, et après il va y avoir un système organisé comme on le connaît en ce moment. Donc je crois qu'il est urgent de réagir, parce qu'effectivement, si une bibliothèque nous dit que son rôle c'est simplement d'agréger des données, qui peuvent être des bouquins imprimés, tant qu'il y a des bouquins imprimés ça va, mais quelqu'un qui a la tête d'une unité de recherche qui coûte déjà très cher parce qu'il lui faut des machines, et on lui propose d'un côté la possibilité d'abonner ses chercheurs à des revues en ligne, avec la possibilité pour eux de créer des collections au sein du département où ils partagent leurs commentaires sur les bibliographies qu'ils ont lues. Et de notre côté, on leur propose la cotisation à la bibliothèque de l'établissement. Je pense que si ce n'est pas encore le cas, très bientôt, le choix sera vite fait.
C'est déjà fait.
Donc je pense qu'il
faut réagir. Bibliothèque, elle peut proposer l'abonnement à ces portails de revues, justement, ces agrégateurs de revues.
Ce qui se passe en général, c'est que dans les laboratoires de recherche, ils sont tous en association avec MacHem ou MIT, Bidule, je ne sais pas trop où, grâce auquel, à travers lequel il y a un consortium international constitué, qui a un accès privilégié au serveur.
C'est des bouquets de revues.
Et il n'a pas besoin de passer par le bouquet négocié par la centrale française, parce qu'il a un accès qu'il croit, ou qui est peut-être vrai, je ne veux pas savoir, mais il a un accès privilégié différent à ce dont il a besoin. Et puis on retombe dans l'individualisme habituel où bah, moi j'ai besoin de PubMed et puis j'ai pas besoin de 36 autres qui sont à côté. Donc je paye PubMed et je paye pas les trucs d'à côté.
Sans compter qu'on est à l'heure des protocoles et des échanges, mais en médecine par exemple, la PHP à Paris, l'assistance publique des hôpitaux, est un système complètement clos sur lui-même. C'est-à-dire que tous les hospitaliers parisiens ont au sein de la PHP des abonnements en ligne. Et il n'y a aucune passerelle possible avec l'éducation nationale, c'est-à-dire les facultés de médecine. Ah. Parce qu'ils ne veulent pas laisser passer les données pour des raisons de sécurité informatique. C'est complètement archaïque. Ce qui fait que nous, éducation nationale, on s'abonne à des portails
même.
Et à des abonnements électroniques de périodiques qu'ils ne peuvent pas voir de leur ordinateur. Il faut qu'ils viennent à la faculté parce qu'il n'y a pas d'échange possible.
On est là. Bon.
Non, là, c'est des décisions politiques qui ne sont pas prises et donc on sera là.
Oui, je suis d'accord avec vous. Le problème, il n'est pas technique. Après, il y a quelques. Comme ça a été dit, il y a une génération
de techniciens, il faut les mettre à la retraite. C'est là où justement Internet ne peut pas répondre quand les gens n'ont pas envie de communiquer.
Ah oui, c'est.
Et tous les outils ne feront rien.
Mais là, c'est à pleurer quand même.
Est-ce qu'on pourrait faire une petite pause?
Je termine ça et vous faites une pause. Parce que là, je suis arrivé au bout, de toute façon. Donc, ce que je voulais vous dire, après avoir vu donc, cette organisation et ce fonctionnement général de l'OAI, c'est que finalement, ce qu'apporte l'OAI, au bout du compte, c'est une mise à disposition beaucoup plus large et sans aucune barrière, finalement, non pas seulement pour les institutions, mais aussi pour les individus. Et c'est le grand changement qui est en train de se produire, c'est que n'importe qui, aujourd'hui, grâce à des outils de ce type-là, peut devenir éditeur. Et le protocole, comme on l'a vu, permet d'agréger des données, mais ne permet en rien de les qualifier.
Oui.
Et un des risques se trouve effectivement sur la qualification de ces données. Bon, voilà, donc le reste, c'est pas trivial. Donc, pour terminer, je voulais juste dire un petit mot que cet exposé n'a été possible que grâce à Pierre-Yves Duchemin. Je le remercie de façon posthume, mais tout à fait sincère. Et je remercie aussi les gens de l'ENSIP qui ont pu contribuer à rédiger ces choses-là. Et pour finir, vous n'y avez pas eu droit hier, donc je me venge, je l'ai remise aujourd'hui. Ma petite phrase, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la société de l'information dans laquelle nous vivons donne plus de potentiel et de valeur à celui qui sait où se trouvent les données et en maîtrise l'accès qu'à celui qui sait en produire de nouvelles. Il y a plein de fautes d'orthographe, je vais être fatigué quand j'ai écrit. Mais sans auteur, il y a évidemment plus de nouvelles données et il n'y a plus d'innovation.
Ben voilà.
Voilà.